La guerre de 14, je ne l'ai pas connue. Je veux dire, la tranchée boueuse, l'humidité qui transperce les eaux, les gros rats noirs en pelage d'hiver qui se faufilent entre des détritus informes, les odeurs mélangées de tabac gris et d'excréments mal enterrés, avec, pour couvrir le tout, un ciel métallique uniforme qui se déverse à intervalles réguliers, comme si Dieu n'en finissait plus de s'acharner sur le simple soldat. C'est cette guerre-là que je n'ai pas connue.
Denis Gutleben, je suis historien des sciences, historien de la recherche contemporaine, donc 19e, 20e siècle, et je travaille au Centre national de la recherche scientifique, le CNRS. Pourquoi l'histoire de la recherche? En fait, c'est parce que c'est un domaine qui m'a assez rapidement intéressé de voir. Alors moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est notamment l'histoire des politiques, des institutions de recherche, mais aussi l'histoire des scientifiques, des chercheurs, des savants, comme on disait avant, dans la société de manière générale, voir les interactions, les projets qu'ils peuvent lancer, ceux qui aboutissent, ceux qui n'aboutissent pas. Donc c'est vraiment par passion pour ce domaine de recherche, de manière générale, et puis plus particulièrement pour l'établissement pour lequel je travaille, donc le CNRS, parce que je trouve qu'il a une grande, une riche, une belle histoire. Il a été créé en octobre 1939, il y a 80 ans bientôt, et du coup, remettre cette histoire un petit peu en valeur, moi je trouve ça plutôt intéressant. Alors la période 14-18, on a tout de suite une réaction. Quand on pense à la recherche scientifique en 14-18, on pense au gaz de combat et à la recherche en chimie. Et c'est effectivement l'aspect qui a sans doute été le plus développé. En tout cas, c'est celui qui a laissé le plus de traces dans nos mémoires, parce que ça a été quelque chose d'assez tragique. L'utilisation de ces gaz, ça a eu des répercussions absolument énormes sur les gens, sur les constructions, sur tout ça. Donc ça a marqué notre histoire, mais c'est évidemment pas la seule implication des scientifiques. Et vous citiez à l'instant la médecine, c'est aussi un très bon exemple. Il y a eu beaucoup de progrès qui ont été réalisés en médecine et en chirurgie notamment pendant le conflit, et on pense évidemment aussi à quelque chose qui a beaucoup marqué les contemporains et qui continue de nous marquer jusqu'à aujourd'hui, c'est la chirurgie faciale pour les fameuses gueules cassées.
Un autre.
Tirez!
Les gueules cassées, c'est en effet une image assez forte. C'est une image assez forte qu'on essayait de combattre à l'époque, parce que c'était aussi une question de maintenir un petit peu le moral dans la population et renvoyer à l'arrière des soldats qui étaient... Alors non seulement il y a eu énormément de morts dans cette guerre, donc déjà c'était une tragédie terrible, mais aussi renvoyer en plein milieu de la population civile des soldats à ce point défigurés, ça pouvait atteindre très fortement le moral de l'arrière. Alors, le moral de l'arrière, c'était important aussi pour maintenir la pression sur le front. Donc ça a eu des conséquences assez importantes. Les travaux qui ont été menés dans ce domaine-là, ils ont été poussés assez loin et assez rapidement, avec des résultats quand même assez positifs. Et si ça continue quand même à nous marquer aujourd'hui encore, c'est que ces travaux, en plus, ils ont été accompagnés de pas mal de... on utilisait beaucoup la photographie, justement, pour voir l'évolution de la médecine et du soin apporté aux gueules cassées. Et du coup, ça a laissé beaucoup de traces... qu'on peut encore voir aujourd'hui, et c'est pour ça que je pense que ça continue à nous marquer énormément. Si on parlait comme ça, de manière un petit peu dans le vent, des gueules cassées, ça ne nous évoquerait rien. Ça nous évoque beaucoup parce qu'on peut encore voir quelles sont les tragédies qui étaient ces gueules cassées. Alors, l'image du savant, elle était très positive jusqu'à la Première Guerre mondiale. C'était une époque où on parle souvent de scientisme, c'est-à-dire qu'on attendait vraiment tout de la science, qu'elle allait résoudre tous les grands problèmes de la société, toutes les difficultés auxquelles était confronté l'être humain. Et il y avait vraiment cette attente qui était partagée à la fois par les scientifiques eux-mêmes et par les politiques beaucoup, et puis par une grande partie de la population. Et puis la Première Guerre mondiale, finalement, a montré certains de ces scientifiques, pas tous évidemment, mais c'est souvent en effet les chimistes qui sont mis en cause à ce moment-là, un petit peu comme des apprentis sorciers capables de mettre au point des armes terriblement destructrices. Alors est-ce que ça a changé l'image des scientifiques dans la population, la représentation qu'on s'en fait? Pas forcément, parce que dans chaque communauté nationale, finalement, on voyait ces scientifiques comme en train de travailler pour mettre au point des armes. Alors certes redoutables, mais en même temps pour garantir la victoire. Donc finalement, ça n'a pas altéré la confiance qu'on avait dans les scientifiques. Et d'ailleurs, ça se voit au lendemain en France, notamment de la Première Guerre mondiale. On commence à organiser la recherche dans notre pays et donner plus de moyens à ces scientifiques parce que, certes, ils ont mis au point des armes, mais en même temps, ils ont prouvé leur utilité. Donc il y a tout un débat qui se met en place à partir des années 20 en France et qui va conduire d'ailleurs en 1939, donc quand même longtemps après, mais à la veille d'un autre conflit, à la création du CNRS, qui va contribuer un peu à organiser cette recherche.
Quand au bout de 8 jours, le repos terminé, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous, on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu aussi.
Bon, la Première Guerre mondiale, alors il y a ce qui marque, on va dire, négativement presque, hein, c'est l'allemand Fritz Haber, notamment le père des gaz de combat, et ça c'est une trajectoire qui marque, parce qu'à la fois c'est lui qui a sans cesse, tout au long du conflit, essayé de trouver des agents de plus en plus mortels, ou de plus en plus incapacitants pour les troupes ennemies, et en même temps qui marque pour la suite, parce que Fritz Haber était un savant juif, il n'a pas vécu la Seconde Guerre mondiale, mais malgré tout, ces travaux ont été réutilisés par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc ça, c'est quelque chose qui marque quand même beaucoup en termes de trajectoire. En France, il y a plusieurs scientifiques que je pourrais citer, mais il y a Marie Curie, évidemment. Enfin, Marie Curie et la radiologie, faire les images radio sur le front en utilisant ces véhicules, ces postes de radio mobiles, les fameuses petites Curie, ça marque beaucoup. Paul Langevin, qui est le physicien d'ailleurs très proche de Marie Curie et qui a mis au point le sonar pendant la Première Guerre mondiale. Et puis il y en a un que je cite évidemment toujours, c'est Jean Perrin. Jean Perrin, c'est un physicien, il a participé à un certain nombre de travaux pendant la Première Guerre mondiale, mais c'est aussi lui qui va recevoir le prix Nobel de physique en 1926, donc après le conflit, mais qui va surtout mettre en place une croisade dans les années 30 qui va mener à la création du CNRS. Jean Perrin, c'est le père fondateur.
Seuls les grands hommes entrent au Panthéon. Aujourd'hui, une femme d'origine polonaise a été honorée pour son travail, son génie, son courage. Pierre et Marie Curie, un couple, un prix Nobel partagé, une vie au service de la science. 14 années après sa prise de fonction, François Mitterrand est revenu au Panthéon pour présider cette cérémonie de transfert de cendres aux côtés de Lech Walesa, devant la famille du couple Curie et en présence du gouvernement français, de l'ensemble de la communauté scientifique. Le président français, artisan de cet hommage, a souligné particulièrement la symbolique de son geste.
Au moment où le pays s'incline devant les cendres de celle qui fut, en tant que femme, la première docteure en sciences, la première professeure en Sorbonne, la première à recevoir le prix Nobel, je forme le vœu au nom de la France, que partout dans le monde progresse l'égalité des droits.
Les portes de l'histoire se sont ouvertes aujourd'hui sur ce couple mythique. Pour le profane, Pierre et Marie Curie, c'est l'isolement du radium et ses applications dans le traitement notamment du cancer. Mais c'est aussi le début d'une aventure scientifique. Une aventure qui peut engendrer le pire et le meilleur. Le message du président français aujourd'hui sera de dire « Cette aventure doit être maîtrisée et non pas redoutée ».
Alors les mêmes efforts, alors si c'est les efforts des scientifiques, je pense que leur travail est plus ou moins constant en temps de paix ou en temps de paix ou en temps de guerre. Si c'est les efforts des politiques, oui, ça c'est quelque chose d'assez évident, c'est-à-dire qu'au moment où la guerre éclate et où on s'aperçoit, alors Pour la 14-18, c'est un peu particulier. C'est qu'au début, et en France notamment, on n'a pas beaucoup investi dans la science parce qu'on pensait que ça allait être une guerre courte, qu'on allait très vite gagner, qu'on avait la meilleure armée du monde. Et puis très vite, quand c'est avéré faux, on s'est dit on va investir dans la recherche. Et là, on investit massivement parce que on réussit à mobiliser tous les moyens pour le faire. En revanche, quand la paix revient, à partir de 1919, il a fallu longtemps pour retrouver les moyens à mettre dans la recherche. Il a fallu une longue croisade, il a fallu une longue croisade de Jean Perrin notamment, que je citais tout à l'heure, pour sensibiliser les politiques à la cause de la recherche scientifique et aux moyens qu'il faut nécessairement y mettre pour qu'elle avance. Donc ça dépend de quel point de vue on se place au final. Ouais.
Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes, c'est bien fini, c'est pour toujours, de cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau, car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés.
C'est pour montrer un petit peu au travers de mes travaux l'implication très étroite que peuvent avoir les scientifiques dans notre société, parce qu'on a souvent tendance à faire des savants, comme on les appelait à l'époque, ou des chercheurs comme aujourd'hui, ou des enseignants-chercheurs, des gens qui vivent un peu dans leur tour d'ivoire coupé de toutes les réalités, et on s'aperçoit que c'est jamais vrai, quelle que soit la période, période positive, puisqu'ils apportent, ils peuvent apporter beaucoup, on le voit tous les jours aujourd'hui encore à la société, et puis apport négatif entre guillemets pendant les périodes de conflit, c'est-à-dire c'est toujours des gens qui sont plein pied dans la société qui les environne, qui essaient de répondre aux questions qu'on leur pose, et c'est pas du tout des gens retranchés qui vivent complètement éthérés sur leur nuage. Donc c'est un petit peu ça que j'essaie de montrer, plus que de la mémoire, c'est de montrer vraiment ce rôle des scientifiques dans la société. Alors on dit souvent que l'histoire ça sert à justement maintenir cette mémoire, à éviter qu'on reproduise les erreurs du passé. Moi je suis plus sceptique par rapport à ça. C'est très important de connaître cette histoire, de se mettre en garde par rapport aux dérives qui a pu avoir lieu dans le passé, mais enfin, l'être humain étant ce qu'il est, je pense qu'il hésite jamais, même en connaissant très bien l'histoire, à replonger les deux pieds et la tête la première dans les grandes erreurs qu'il a déjà commises. Donc je suis pas un optimiste béat face à ça, mais néanmoins ça veut pas dire qu'il faut tout ignorer du passé et puis plonger encore une fois tête baissée dans ses erreurs, quoi.
Les guerres ont modifié les sociétés de leur temps, leurs idées, leur conception du monde. Mais jusque-là, aucune guerre n'a eu le même impact que la guerre de 1914 sur les sciences et sur la vie scientifique.